Dans nos communautés, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Chers auditeurs et chères auditrices de Radio Alliance Plus, bonjour, bienvenue pour notre émission dans nos communautés où nous retrouvons encore une fois Paul et Fauna et nous nous n'en plaignons pas du tout.
C'est gentil, merci Christiane.
Merci Paul de venir à notre rencontre, à la rencontre de Radio Alliance Plus pour cette deuxième émission au sujet des agressions physiques, sexuelles et spirituelles en Église. Et pour cette deuxième émission, nous allons plus parler de ce référentiel qui a été mis en place par la Fédération protestante de France en janvier 2025. Et que dit ce référentiel, etc. Nous allons un peu rentrer à l'intérieur et voir aussi ce qu'est plus particulièrement là dans cette deuxième émission les violences spirituelles et de ce qui aussi comment la nous avons été alertés comment la Fédération protestante de France depuis déjà quelques années a été alertée par ce souci d'aide aux victimes d'agressions physiques, sexuelles et spirituelles. Alors, Paul et Fauna, bonjour, rebonjour.
Rebonjour, Christiane.
Et donc, pourquoi la Fédération protestante de France a produit ce référentiel ?
Chère Christiane, en 2023, l'Assemblée générale de la Fédération protestante de France avait déjà reçu un rapport de la Commission éthique et société, lequel rapport portait déjà sur ces questions de violences sexuelles et spirituelles au sein de nos églises. Donc ce référentiel se situe dans cette prise de conscience et dans ce travail que les églises dont l'Union, dont, et les fédérations, dont la Fédération protestante de France, donc fait depuis un certain nombre d'années maintenant. Le référentiel, dans son préambule, ose cette affirmation du président Krieger, président de la Fédération protestante, qu'il nous faut reconnaître que nos églises ont failli, ou tout du moins n'ont pas toujours été à la hauteur de leur mission. Au lieu de se tenir debout à côté des victimes sans défense et dépendantes, avec des mots, des actes, et de s'opposer à la violence, elles sont trop souvent restées silencieuses et inactives. On avait un peu parlé de ça lors de notre précédente émission, cette question du déni, cette question de l'inaction, cette question aussi de garder les choses, de vouloir gérer les choses à l'intérieur même de nos églises. Et bien, la Fédération protestante produit ici un référentiel pour aider les unions d'églises qui en font partie et aider tout simplement l'Église du Christ à avoir un outil qui permette de mieux prendre en charge les problématiques liées aux violences, d'alerter, mais alerter ne suffit pas, de donner également un outil qui permette d'asseoir une démarche déontologique et une pratique vertueuse pour pouvoir régler, accompagner ces situations et en tout cas sortir d'un habitus qui était jusqu'ici de vouloir les gérer en interne.
Donc c'est une prise de conscience importante et une non seulement qui reste dans la tête, je dirais, mais quelque chose d'actif pour aider le plus possible les victimes de ces agressions. Et donc on a évoqué lors de notre première émission déjà la difficulté, le mot violence spirituelle qui n'existe pas, disons, en tant que par la loi, qui n'est pas nommé comme de
comme
cette façon-là.
Dans le texte de la loi, effectivement, ce n'est pas une une terminologie qu'on retrouvera dans nos textes de loi, mais ici il faut plutôt faire un rapprochement avec la notion d'emprise d'ailleurs, hein, qui a été reconnue dans la loi récente là, en 2024 visant à lutter contre les dérives sectaires. Donc l'expression violence spirituelle La fédération protestante a voulu d'abord dire deux choses. D'abord dire attention, parce que dans les représentations collectives, dans l'entendement collectif, on a envie de dire, quand on parle d'abus, aujourd'hui, les gens ont l'impression que les choses sont acceptables jusqu'à un certain point. Comme s'il s'agissait de placer un curseur à mi-parcours, à mi-chemin d'une situation qui est de toutes les façons inacceptable dès le commencement. Donc on dit il ne faut pas abuser, ou bien il a abusé, comme si avant c'était quand même acceptable, ou supportable, ou justifiable. Alors que la notion de violence nous renvoie tout de suite dans le champ de ce qui est délictuel, de ce qui tombe sous le coup de la loi, de ce qui est répréhensible. Donc il s'agissait pédagogiquement de, j'ai envie de dire, de mobiliser ici, là, un terme qui allume les signaux rouges d'une certaine façon. Mais alors, que recoupe cette réalité de violence spirituelle ? Le référentiel nous renvoie au rapport de la Commission éthique et société. Et qu'est-ce que ce rapport nous apprend ? Ce rapport nous apprend, avec l'aide du pasteur baptiste Jacques Poujol, dont nous connaissons les nombreux écrits en tant que psychothérapeute, il va définir ici la violence spirituelle comme un mauvais traitement spirituel et psychologique infligé à une personne qui a pour conséquence de l'affaiblir, voire de la détruire et de la rendre dépendante, tant psychologiquement que spirituellement. Elle consiste donc, dit-il, à prendre le pouvoir sur les consciences et les corps au nom de la foi. Pour dire les choses simplement, il s'agit d'un abus de pouvoir, d'un abus d'autorité, d'un abus spirituel, parce que instrumentalisant aussi le texte biblique ou un argumentaire pseudo-théologique. Il s'agit d'une emprise.
Donc, les effets de cette emprise, on ne peut pas peut-être tous les nommer, mais peut-être on peut évoquer certaines conséquences.
Oui, l'une des premières conséquences, comme le dit d'ailleurs Jacques Poujol, c'est quand même une violence inouïe dans l'intégrité psychique d'un sujet. On force la porte, on ne rentre pas à effraction, c'est violent, la personne perd confiance, parce que les personnes qui ont été abusées, que ce soit sexuellement ou spirituellement, par une personne en situation d'autorité, qui plus est, que ce soit, il y a une autorité spirituelle, un pasteur, un membre d'un conseil presbytéral, ou une personne même laïque exerçant donc des fonctions de responsabilité reconnues dans son église, et bien cette personne concrètement perd confiance dans l'Église, perd confiance dans la foi, peut perdre confiance dans la foi, perd confiance dans la capacité d'être en sécurité, hein, au sein même de l'Église, qui devrait être un lieu, j'ai envie de dire, d'amour, un lieu de fraternité, un lieu refuge, un lieu de solidarité. Donc, il y a la perte de confiance. Il y a aussi, parfois, la dépossession des moyens de penser par soi-même, la dépossession de son autonomie de pensée. Ça peut aussi se traduire par des manipulations. Il y a quand même aussi un certain nombre d'affaires où ça va jusque dans des abus, avec des sommes d'argent à donner pour recevoir une onction, une prière, une bénédiction quelconque. Ça peut également avoir pour conséquence de désocialiser des personnes en les coupant de leurs attaches familiales, par exemple, par des mécanismes insidieux qui consisteraient, par exemple, à surinvestir une personne dans le cadre de son service ecclésial, à lui prendre comme ça un peu tout l'espace de son temps et de son temps relationnel, et à le couper tout simplement d'un réseau social où il peut rencontrer d'autres personnes, et donc s'ouvrir à l'altérité une fois de plus, s'ouvrir à la diversité, s'ouvrir à la différence aussi de point de vue. Et voilà quelques conséquences, pour aller très rapidement, de ce que peuvent provoquer les abus et les violences spirituelles.
Alors ce référentiel, qu'est-ce qu'il dit ?
Alors il nous dit beaucoup de choses. Il est structuré en trois parties. Dans passer le préambule, il y a une première partie où il est question des principes, et une seconde partie où il est question des propositions très concrètes sur lesquelles on reviendra. Qu'est-ce qu'on fait, comment on prend en charge, par exemple, la parole d'une victime qui porte à la connaissance de son église des faits d'abus. que ce soit commis par un pasteur, un ministre de culte ou une personne laïque. Et puis, il y a une troisième partie qui nous parle des mesures d'accompagnement par un comité de suivi de ce référentiel. Donc, dans la première partie, les principes, elle nous dit deux choses importantes. Le premier principe que nous dit ce référentiel, c'est que la loi de la République s'impose comme cadre de référence à tous les règlements de l'Église. C'est-à-dire que on ne peut pas, sous prétexte que nous sommes chrétiens, que nous sommes frères et sœurs en Christ, que nous sommes une communauté de l'amour, de la bienveillance, qu'il ne faudrait pas porter atteinte à la réputation de nos Églises, se soustraire d'une certaine façon par cette argumentation-là au droit commun, soit code civil, code pénal. C'est rappeler que voilà, tout le corpus des lois de la République s'applique à tous, aux fidèles comme aux personnes en situation de responsabilité, et ce dans le cadre de toutes les activités de nos églises. Donc ça, c'est le premier principe. Voilà, l'Église fait partie des instances qui vivent dans le cadre d'une république, et certaines de ces affaires se règlent dans les instances dont sont dotées la république pour dire le droit. C'est le premier principe. Le deuxième principe reprend d'ailleurs largement les travaux du comité. On va dire, pour là aussi simplifier pour nos auditeurs, qu'il s'agit vraiment de casser la culture du déni et de prendre très au sérieux la parole des victimes. Vous savez, lorsqu'une victime ose parler, elle a déjà dû traverser, se faire violence elle-même, et dû traverser beaucoup d'entraves à sa parole. Elle est sortie du déni, elle est sortie de ça. Elle a commencé sans doute de sortir de sa honte, de sa peur. Et ce référentiel nous dit, sans vous substituer aux autorités à qui il appartient de faire des investigations et de prendre la décision, sans trahir la présomption d'innocence, vous êtes encouragé à prendre très au sérieux la parole des victimes, à les écouter avec bienveillance et à les accompagner vers les instances républicaines, la gendarmerie, la police, pour que cette parole soit également prise au sérieux et que s'ouvre une instruction judiciaire.
Alors, ces principes sont posés, ils sont vraiment importants, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas, on ne veut pas aller dans des dérives ou de nouveau dans le silence et de nouveau dans des choses où bon, on va s'arranger entre nous, entre guillemets.
C'est ça.
Puisque là, l'Église, la Fédération par exemple, ne peut pas se substituer à la loi, qu'est-ce qu'elle peut néanmoins faire ?
Oui, effectivement, la Fédération protestante est une organisation à laquelle adhèrent librement les unions d'Église, et elle n'a pas j'ai envie de dire, un mandat coercitif qui s'imposerait comme ça d'en haut aux unions d'Église et encore moins aux églises locales. Néanmoins, la Fédération protestante peut se doter d'un référentiel ou énoncer des directives qui engage chacun de ses membres à les traduire dans ses procédures. La deuxième partie de ce référentiel vise précisément donc à parler de ces conduites à tenir dans deux cas, par exemple. Le cas où les faits relèvent d'une personne en responsabilité, ministre de culte ou laïque, et ont eu lieu dans l'Église. Et le deuxième cas, c'est le cas où l'Église aurait connaissance d'un comportement inapproprié qui a eu lieu dans la vie privée. Quelle conduite doit être tenue dans ces cas-là ? Dans le premier cas, la Fédération protestante de France, dans ce référentiel, nous pose un certain nombre de repères. Je voudrais ici les préciser. D'abord, il n'appartient à aucun cas aux membres de l'Église de mener l'enquête ou de tenter de savoir qui dit vrai. Cela appartient à la justice. Donc, la première chose qui est recommandée comme bonne pratique, c'est d'accompagner les victimes et d'encourager les victimes, en s'assurant de leur sécurité, bien entendu, vers les autorités de police, de gendarmerie, qui prendront une plainte et ouvriront, déclencheront l'enquête et l'instruction judiciaire. Cette première étape ayant été faite, l'Église doit signifier à la personne mise en cause, le ministre du culte ou le responsable laïque ayant eu un mandat dans l'Église, jouant un rôle dans l'Église, de se mettre en retrait, de s'abstenir de toute présence aux activités de l'Église. Il ne s'agit pas d'une excommunication, mais il s'agit d'une mesure conservatoire visant d'abord à incarner le fait que nous prenons au sérieux la souffrance de la personne qui a porté à la connaissance des responsables de l'Église sa souffrance et les violences qu'elle dit avoir subies. Donc il faut quand même que la personne ait un signal concret que sa parole a été prise au sérieux. Et donc en suspendant le pasteur ou le responsable, la personne laïque responsable d'une mission confiée par l'Église, ce signal permet de dire: nous prenons au sérieux cette affaire, nous suspendons, en attendant les conclusions de l'instruction judiciaire, cette personne de ses fonctions à titre conservatoire. Mais c'est aussi une mesure de protection de la personne qui a été mise en cause elle-même, puisque cette personne continue d'avoir, dans notre droit français, ce qu'on appelle la présomption d'innocence, mais il s'agit également de ne pas exposer cette personne à l'éventuel rejet, aux paroles qu'elle peut entendre en étant elle-même pleinement dans la vie de l'Église, hein, donc locale. Si c'est un ministre de culte, la fédération invite le conseil presbytéral, en tout cas les instances de décision à l'intérieur de ces unions membres, d'envisager, comme ça se fait par exemple dans l'éducation nationale ou dans d'autres milieux, une suspension à titre conservatoire de toutes les responsabilités. C'est-à-dire que concrètement, voilà, le pasteur ou cette personne laïque suspend toutes ses responsabilités, ne communique pas avec le mail professionnel, n'utilise plus les moyens dont il a été doté pour les missions qui lui ont été confiées. Dans ce cas, puisqu'il n'y a pas encore de jugement à ce stade définitif de l'instruction judiciaire, la personne, si elle est logée, c'est souvent le cas des pasteurs qui bénéficient d'un logement de fonction, un presbytère, la personne peut conserver quand même la jouissance, on va dire, hein, de son presbytère, mais là aussi rien n'empêche à l'Église de pouvoir définir une durée qu'elle estime raisonnable, par exemple 4 mois, 6 mois, finir une année scolaire en étant dans son presbytère en bénéficiant de cet avantage en nature, le temps de l'instruction. Ça, c'est lorsque les violences ou les personnes en cause sont responsables et que les violences ont eu lieu dans le cadre de l'Église. Le deuxième volet, ce sont des violences qui ont lieu dans le cadre de la vie privée. Par exemple, un pasteur dont l'épouse se aurait porté plainte pour violence psychologique, sexuelle, pour viol conjugal et autres, et que sa plainte serait portée à la connaissance des responsables du conseil presbytéral. On pourrait dire que c'est une affaire strictement privée, puisqu'elle a lieu dans le cadre de l'intimité du pasteur, de sa vie privée, et que cette affaire n'a pas à être connue, en quelque sorte, des instances de l'Église. Mais ici, le référentiel de la Fédération protestante nous dit non. Dès lors que, même dans le cadre privé, la fonction de pasteur, le ministère pastoral, d'une certaine façon, à une dimension publique. Et on ne peut pas non plus, là aussi, faire l'autruche et ne pas prendre au sérieux la parole de la victime, même lorsque les faits ont eu lieu dans la vie privée, et donc d'encourager les victimes, là aussi, à aller devant les autorités compétentes pour porter à leur connaissance les faits qui ont été partagés par ailleurs, et ici aussi de prendre les mesures à titre conservatoire que je venais d'énoncer.
Merci pour toutes ces explications, parce que c'est vrai qu'il y a des cas différents et c'est assez compliqué et c'est douloureux pour tout le monde, en fait. Donc, pour l'Église qui a connaissance de ces faits, pour la personne concernée, pour la victime, bien sûr, en premier lieu. Et donc, d'avoir statué ces différentes choses, c'est important. Et après la décision de justice, alors, parce que ça peut durer, c'est vrai, assez longtemps, mais après la décision de justice, qu'est-ce qui peut se passer pour la... Bon,
oui, pour
la personne réintègre son poste, qu'est-ce qui est préconisé?
Alors, le référentiel distingue trois situations. Dans un premier cas, la phase d'enquête peut aboutir à une décision de classement sans suite ou à une ordonnance de non-lieu. Alors, il appartient à la direction de l'Église d'évaluer la situation et de prendre ses responsabilités. Et ici, là, la recommandation du référentiel invite les instances des églises locales à avoir recours à une instance tierce qui pourrait être, par exemple, le fameux comité de suivi pour qu'il y ait un tiers extérieur à l'institution qui puisse véritablement aider, accompagner au discernement de la décision à prendre. Il y a un deuxième cas, la personne poursuivie est déclarée non coupable par une juridiction pénale des faits qui lui sont reprochés. Et donc, dans ce cas, elle doit être réintégrée dans ses fonctions. Il peut s'avérer non opportun que son ministère continue de s'exercer là où il a été mis en cause, mais la personne est donc, n'est pas réputée être condamnée et est dégagée de toute responsabilité dans cette affaire. Il n'y a pas de raison de mettre fin à l'exercice de son ministère. Le troisième cas, c'est lorsque la personne poursuivie est condamnée pénalement pour des faits de violence physique grave, sexuelle ou spirituelle. La recommandation qui est faite aux unions d'église et aux églises, c'est que cette personne ne devrait plus pouvoir exercer une responsabilité au sein de l'église. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas sa place dans l'église, mais elle aura sa place dans l'église, mais plus une place lui donnant une autorité spirituelle ou une autorité au sein de l'église locale. Il peut y avoir des situations particulières, je terminerai par là. Si une personne condamnée pénalement, ayant purgé sa peine, fait un réel chemin de conversion de telle sorte qu'une réintégration dans son ministère paraissent envisageables par l'Église dont elle dépend, l'Union d'Église, par exemple, au sein de la Fédération Baptiste, le recours à une instance tierce, là également, doit être sollicité pour s'assurer véritablement qu'on n'est pas ici, là, comme Jean-Baptiste, sur des repentances stratégiques. Il disait « produisez donc des fruits dignes de la repentance ». Eh bien, il faudrait peut-être avoir recours à un tiers pour objectiver un peu la question « quels sont les signes, les fruits qui manifestent qu'il y a véritablement eu une prise de conscience, une conversion de cœur et de pratique.
Alors Polyphona, merci pour toutes ces précisions sur ce référentiel. Nous n'avons pas tout à fait terminé parce qu'il y a aussi un comité d'accompagnement et de suivi par la suite. Mais notre émission va bientôt toucher à sa fin et je ne voudrais pas oublier de revenir un peu sur dans toutes ces affaires, quel regard nous pouvons avoir. Nous allons entendre un chant auquel nous avons pensé tout à l'heure tous les deux, et c'est ce regard de Jésus sur nous, et donc le regard de Jésus sur toute personne, qu'elle soit victime ou qu'elle soit responsable d'actes. Voilà, c'est peut-être vers cela que nous voudrions aller.
Oui, tout à fait. Je crois que c'est fondamental, effectivement, de donner une perspective d'espérance, d'abord en pensant aux victimes. Il y a un chemin à parcourir, à dire que ce qu'elles ont subi est injustifiable, hein, et que le Christ pose un regard d'amour, un regard de restauration possible sur leur vie, et une parole aussi pour les agresseurs, de dire qu'il y a un chemin aussi d'espérance possible à vivre, mais voilà, c'est très difficile d'accompagner agresseurs et victimes. En même temps, c'est souvent déconseillé d'ailleurs. Vaudrait mieux proposer aussi aux agresseurs des lieux pour réfléchir à leur violence et faire aussi une route pour régler ce problème avec la violence et être réconcilié, on va dire, avec le regard du Christ, l'esprit du Christ qui n'abuse pas, qui n'instrumentalise pas l'autre, l'amour ne violente pas l'autre, hein, pour paraphraser un peu l'apôtre Paul dans l'hymne à l'amour. Je voudrais signaler à vos auditeurs un livre qui a été publié là en 2025 par la Fédération protestante de France, « Comprendre et lutter contre les violences en protestantisme », un outil de référence pour sensibiliser et équiper les consciences. Vous trouverez ça aux éditions Biblio.
Voilà, merci beaucoup de l'avoir nommé, parce qu'il vient juste de sortir et il complète énormément notre émission, nos deux émissions, Paul et Fauna. Merci beaucoup d'être venu et je vous propose de terminer par ce beau chant de Noël Colombier qui est le regard de Jésus sur nous.
On était deux amis, Jean et puis moi André. C'était 4 heures du soir au mois de février. On suivait en curieux Jésus qui s'en allait. Quand il s'est retourné, qui nous a parlé. Il y avait dans ses yeux tellement d'amitié. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Ce regard, je ne l'oublierai jamais.
Seule comme d'habitude, j'allais à la fontaine. Vous savez mon histoire, moi la Samaritaine. J'étais la fille blasée qui traînait un cœur lourd de n'avoir pas trouvé le fameux grand amour. C'était comme une eau fraîche quand il m'a regardé.
Moi j'étais fonctionnaire, je m'appelle Mathieu. Un métier bien payé qui donne quand on est vieux. La bonne petite retraite pour faire son petit jardin. J'ai oublié tout ça quand Jésus m'a dit viens. Quand il m'a regardé, il a tout chamboulé. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Ce regard, je ne l'oublierai jamais.
Moi je fermais les yeux comme une bête apeurée. Pour un moment de faiblesse, j'allais être tuée. Mais quand ils sont partis, tout penauds et confus, et que Jésus m'a dit, car tu ne pêches plus. Ses yeux étaient remplis de tellement. Je